Bonjour, chers amis du temps de la vérité. Nous sommes toujours sur l'enseignement sur l'adoption. Et nous allons voir en troisième partie l'adoption des chrétiens. Nous avons vu l'adoption en un, le principe et la définition. En deux, les conséquences de l'adoption. Et en trois, nous verrons donc l'adoption des chrétiens. L'adoption des chrétiens est le principe final de base que nous devons comprendre. Après maintenant d'avoir compris ce que c'est que l'adoption, nous allons mieux comprendre l'adoption des chrétiens. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a un seul Fils unique, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 3, 16, la Bible va nous dire, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. » Donc la Bible nous dit que Dieu a un Fils unique. Je vous donne encore quelques textes pour savoir et attirer votre attention sur ce que les Écritures disent. Fils unique, c'est-à-dire qu'il a un seul fils. C'est pour ça qu'on se pose la question, mais nous là, quelle est notre place? On comprend si Jean 3, 16, qui nous dit que Dieu a un seul fils unique. Mais quand on va aller plus tard dans les Épîtres, que Paul encore va dire le fils unique de Dieu, on se dit, mais et vous qui vous êtes convertis, vous les apôtres, vous n'êtes pas les fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu, mais il y a un seul fils unique. Et on va comprendre la différence. Dans Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit ceci. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. La particularité de Jésus-Christ par rapport à tous les autres enfants de Dieu, c'est que la Bible, en nous disant unique, veut interpeller notre attention sur quelque chose. C'est-à-dire la façon dont Christ est né de Dieu, est fils de Dieu, c'est pas de cette même façon nous sommes fils de Dieu. Rappelez-vous, nous allons voir l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu disait à Abraham, « Donne-moi ton unique fils », Abraham, ce jour-là, avait déjà accouché Ismaël. Mais Ismaël a été obtenu parce qu'il était un fils de l'esclave. Il n'était pas le fils de la promesse. Donc, il avait été exclu de l'héritage. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec un fils unique. Donc, en disant « fils unique », c'est parce que Jésus-Christ est sorti du sein du Père. Lui-même se décrivant, il dit « Je suis sorti du sein du Père ». C'est pour ça que Jean 1, 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors que nous, on verra en deuxième partie que nous avons été adoptés. Et on verra que Dieu n'a jamais, avant la fondation du monde, dans son plan, il n'a jamais prévu nous engendrer directement. Il avait prévu nous adopter. Mais Christ, il est le premier-né. Il est celui qui est sorti du sein du Père. C'est lui qui est venu nous faire connaître qui est le Père. On va lire quelques deux autres textes pour se conforter cette vérité. Jean 16, verset 27 nous dit, « Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Ces expressions « je suis sorti de Dieu » sont des expressions propres à Jésus-Christ que nous n'arrivons pas à dire. Ça veut dire que tel que lui il est et né, il est unique. Nous ne sommes pas nés de cette façon. Lui, il est directement de Dieu. Nous verrons plus tard comment nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 16, 30. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Enfin, Hébreux 5, 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, c'est à lui seul. Dieu va dire directement, « J'ai engendré. » Vous allez vous dire certainement, mais Dieu aussi a dit qu'on est engendré. Ça n'existe nulle part dans les Écritures. On va le lire clairement tous ces versets auxquels vous pourriez faire allusion. Vous allez voir qu'en lisant clairement vous verrez que ce n'est pas vrai.
Donc en réalité, Jésus a des attributs directs avec Dieu et qui fait de lui le Fils de Dieu.
Et nous ne sommes pas de ce même processus.
Nous sommes enfants de Dieu, vous le verrez, ce n'est pas à tous. Hébreux 1:5 va nous dire ceci. Qu'il n'a jamais dit à un ange, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire, les anges sont appelés les fils de Dieu. On les appelait déjà fils de Dieu. Mais quand on arrive chez Jésus, on dit c'est l'unique. Pourtant, il nous disait qu'il avait ses fils. Nous voyons que quand il disait à Moïse de dire au Pharaon, de parler au Pharaon, il lui a dit, dis au Pharaon, laisse aller mon fils. C'est Israël qu'il appelait mon fils. Mais quand Jésus arrive, il dit c'est mon fils unique. Ça veut dire que tout cela, c'est par un autre principe, il est son fils. C'est par le principe de l'adoption. Hébreux 1:5, on dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. Personne n'a ce caractère. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » On dit qu'il n'a jamais dit ça à un ange. En disant « Fils, fils, fils », il a jamais dit « Je t'ai engendré aujourd'hui. » C'est par d'autres principes et dans le principe d'adoption qu'ils sont devenus des enfants, des fils de Dieu. Donc nous revenons à cette partie que Jésus-Christ est le fils unique de Dieu. Parce qu'il est sorti du Père, parce qu'il était dans le sein du Père, parce qu'il vient directement du Père, il est l'empreinte de sa personne et de sa gloire. Un enfant, un père engendre son enfant, il a des empreintes. Donc il est l'empreinte de sa personne. Nous verrons après, dans l'enseignement sur la divinité, comment comprendre ces principes. Qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc ça c'est la première vérité qu'il faut que nous sachions, qu'il est le Fils unique de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir donc que les chrétiens sont devenus enfants de Dieu par l'adoption. Premièrement, nous devons comprendre que Éphésiens 1:3-5 nous dit que avant la fondation du monde, Dieu dans son plan avait prévu qu'on devait être ses enfants d'adoption. Il n'a jamais dit que dans son plan, il avait prévu qu'on soit les enfants propres, les enfants engendrés directement par lui. Il ne l'a jamais dit. Donc si le plan de Dieu est cohérent, il faut que la réalisation soit cohérente à son plan. Nous lisons donc Éphésiens 1:3-5. Il nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Ça veut dire qu'il nous a prédestinés avant la fondation de l'homme à être ses enfants d'adoption. Tu es un enfant d'adoption. Un enfant adoptif, c'est ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est en Christ et par Christ, par Jésus-Christ, que nous devions être les enfants de Dieu. Vous allez voir plus tard, simplement, la démonstration est simple. On verra plus tard clairement que c'est Jésus-Christ qui nous a engendrés et Dieu nous a adoptés. Ça veut dire que c'est par Christ que nous devions devenir les enfants d'adoption de Dieu. Nous allons lire donc Galates 4:3-5 et il va nous préciser que comme c'était le plan de Dieu, Jésus-Christ qui est venu accomplir la volonté de Dieu ne peut pas faire de nous des enfants directs, engendrés directement par Dieu. comme c'est par lui que Dieu doit nous adopter, vous allez voir qu'il viendra accomplir l'adoption. On nous dit dans Galates chapitre 4, verset 3 à 5, ceci. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc quand Christ nous a rachetés, c'est pour que nous recevions l'adoption prévue par Dieu, pour que nous soyons les enfants de Dieu. Donc ça ne pouvait pas être autrement, puisqu'il suit le plan prévu par Dieu. Il dit, il voit faire son père, il le fait. Donc, en nous rachetant, il va tout faire pour que nous soyons adoptés par Dieu. Donc, comme Joseph a fait Ephraim et Manassé, et Jacob, son père, les a adoptés, c'est comme ça qu'il va nous engendrer. Et il va permettre à Dieu de nous adopter. Voilà la clé de la révélation. Nous allons lire Romains chapitre 8, verset 15. Après donc que Christ ait décidé, donc ait mis en œuvre le plan d'adoption, le Saint-Esprit, qu'on va appeler l'Esprit d'adoption, va venir réaliser la parole de Christ en venant en tant qu'Esprit d'adoption habiter en nous pour nous faire adopter. Donc l'Esprit de Dieu va venir nous adopter, parce que pour adopter, il faut un acte. Il faut un acte légal, il faut un acte. Et donc, l'Esprit va venir réaliser cet acte en tant qu'Esprit d'adoption et va nous adopter. C'est Romains chapitre 8, verset 15-16 qui le dit. Il dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand tu appelles Dieu donc ton Père, c'est à cause de l'esprit d'adoption. C'est à cause du principe d'adoption que celui qui n'était pas ton père est devenu ton père. C'est pour ça que ceux qui prient à l'éternel Dieu tout-puissant et tout, mais quand Christ est venu, il nous a dit, prions notre père. Le juif ne priait pas comme ça. Mais Christ avait une relation particulière avec Dieu. Et lorsque nous aussi, on a été adoptés, il nous a dit de changer le langage, de prier en disant notre père. Nous allons voir l'enseignement sur la prière pour approfondir tous ces sujets et ces détails. Donc, en réalité, Dieu a toujours prévu que nous devions être adoptés. Donc, si quelqu'un dit que c'est Dieu qui nous a engendrés, il y a une erreur dans le plan divin. Le plan, c'est que nous devions être adoptés au travers de Jésus-Christ. Deuxièmement, Christ en venant nous racheter, ce n'est pas pour que Dieu nous engendre directement. C'était pour que nous recevions l'adoption de Dieu. Et toi, l'esprit d'adoption va venir nous habiter pour nous réaliser l'adoption divine. L'adoption divine. Posons donc la question. Pour que on m'adopte, si je ne suis pas fils engendré directement par Dieu comme Jésus-Christ, qui m'a engendré pour que Dieu m'adopte? Comme j'ai dit, il faut qu'on ait notre Joseph. Or, notre Joseph est la typologie de Jésus-Christ. Et je vais vous montrer, en résumé ici, que c'est Jésus en réalité qui nous a engendrés. Si vous avez suivi le premier chapitre sur le principe de la nouvelle naissance, vous avez compris que c'est Christ qui nous a engendrés. C'est ce que nous allons essayer de démontrer maintenant pour que tout soit cohérent. Ce sont des points techniques, je comprends, qui ne sont pas évidents, mais qu'il faut traiter pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu pour qu'ils comprennent. Nous avons une alliance et nous adorons Dieu avec intelligence. Et c'est à nous qu'il a donné de comprendre certaines choses. Mais il ne faut pas que nous soyons superficiels, que nous soyons techniques, que nous ayons une connaissance approfondie de ces sujets pour parler et améliorer la connaissance de ceux qui en parlent comme cela, mais pas forcément avec intelligence et profondeur. C'est Christ qui nous a engendrés directement. Nous allons lire, alors demander à Pierre la nouvelle naissance. Comment on naît de nouveau? Qui nous a fait naître de nouveau? Qui nous a engendrés? dans 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 23, vous notez que tout n'est qu'écriture. Il est écrit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre nous dit que nous avons été régénérés. Régénérer, ça vient de Genèse, c'est la nouvelle naissance, c'est qu'on t'a engendré. Pour engendrer quelqu'un, il faut une semence. Et la semence par laquelle nous avons été engendrés, c'est la parole de Dieu. Or, la parole écrite, c'est la Bible. La parole vivante et permanente, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est lui qui nous a engendrés. Nous allons voir un deuxième exemple. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, nous est écrit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, il nous a engendrés par la parole de vérité. Donc, c'est la parole de vérité, c'est le moyen par lequel nous avons été engendrés. Et c'était la volonté de Dieu. Dit selon sa volonté, il voulait, comme a prévu son plan, que nous soyons engendrés par la parole de vérité. C'est ce que confirme Pierre. C'est ce qui va confirmer aussi l'apôtre Jean. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 4, et le verset 12, il nous est dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mes frères, naître, c'est donner la vie. Mais cette vie, quand on t'accouche, on te donne la vie. Mais cette vie, c'est un vivant qui peut te la communiquer. Donc la vie éternelle que nous cherchons, par lequel nous voulons être engendrés, la vie que nous voulons recevoir est dans la parole. Comme ça, on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Bible nous dit, au verset 12, à tous ceux qui ont cru en elle, donc à cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est la parole qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est la semence divine. Quand tu la reçois, tu crois en elle et tu la reçois, elle te donne le pouvoir légal d'être appelé enfant de Dieu. Cette parole, la suite du texte va nous dire, et nous l'avons connue cette parole. Elle s'est faite chair. Et nous l'avons vu comme étant le Fils unique venu de Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, la parole vivante, active, la parole Esprit de Dieu, c'est elle qui nous a engendrés. C'est elle qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour faire un enfant, il faut une semence. C'est elle qui est la semence par laquelle nous serons engendrés. Dans Luc chapitre 16, la Bible dit ceci. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. La Bible nous dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Si nous sommes enfants de la lumière, il n'y a pas mille lumières, c'est Christ. C'est pour cela que Esaïe va dire une vérité que va reprendre Hébreu. Je sais que vous avez lu ce texte d'Hébreu, mais vous n'avez pas contextualisé. Esaïe a dit, dans Esaïe 8, verset 17-18, ceci. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Quand Ève a accouché, elle dit, c'est avec l'aide de l'Éternel, elle a eu un enfant. Et quand Dieu donne un enfant, on donne que ce qu'on a. Si on n'a pas de religion, pas donné. Si je te donne une terre, que je n'ai pas le pouvoir de la propriété, le type de propriété, je ne t'ai rien donné. Il faut que j'aie la propriété de la terre. Donc c'est Dieu qui donne un enfant. Donc il dit, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. C'est ce texte que va reprendre Hébreu 2, 10 à 13 et va dire que c'est Jésus qui parle comme ça. C'est Jésus qui dit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ça veut dire qu'il a engendré des fils. Hébreu 2, 10, 13 dit ceci. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection dans leur souffrance le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore, je me confie en toi et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donné. Comme Joseph, plus tard, quand on sera adopté, on va devenir les frères de Jésus-Christ. Et Dieu sera notre Père. En ce moment-là, la phrase qui avait été dite ici, il n'aura pas honte de les appeler ses frères. Pourquoi il y a honte? Tu ne veux pas appeler tes propres enfants tes frères. Mais il n'y a plus de honte parce que Dieu a adopté ces enfants-là. Et nous sommes devenus les frères de Jésus-Christ par l'adoption de Dieu. Très chers frères, la Bible nous dit maintenant, à travers Jésus-Christ, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ va nous adopter et va nous élever au rang de fils. C'est ce que Éphésiens 1, 3, 5, on a lu, nous dit. Il dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ses enfants d'adoption. Donc, on va être élevé au rang de fils. C'est pour cela que la Bible nous dit que maintenant, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous pouvons prier en bas terre, nous sommes fils. Et quand on est fils, on va forcément voir les conséquences du fils. C'est-à-dire, maintenant que je suis adopté, je serai fils de Dieu comme Jésus-Christ. Il va dire, je vais vers votre père, mon père et votre père, mon Dieu et votre Dieu. Il va dire, allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Il va les appeler mes frères. Nous allons passer à voir quelles sont les conséquences de l'adoption chez les chrétiens. Vous comprendrez donc certains textes bibliques qui utilisent ces expressions-là. Et ces expressions-là, les contextualisant, nous comprenons de quoi il s'agit. Premièrement, nous sommes élevés au rang de fils. Nous sommes frères de Jésus-Christ. Et nous sommes cohéritiers de Christ. Romains 8, 17 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Éphésiens 3, 6 dit ceci. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, cohéritier veut dire nous sommes au même rang avec le Père, nous sommes fils. L'un adoptif, l'autre unique, propre, direct. Deuxième conséquence, et nous sommes cohéritiers avec Christ des bénédictions spirituelles, comme mes frères et Manassé. C'est pour cela que Éphésiens, toujours 1, verset 3, 6 nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme chaque père bénissait ses enfants, Christ était béni de Dieu. Nous aussi, on a droit et on dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est pour ça que nous avons les arts de l'esprit qui sont les avances Donc Christ va recevoir le Saint-Esprit le jour de ce baptême. Il va dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Nous aussi, on recevra le Saint-Esprit. Christ a reçu les pouvoirs de Dieu. Lui aussi, il va nous faire donner la puissance de Dieu. Christ avait les armes de Dieu. Maintenant, nous aussi, on va hériter de ces armes de Dieu. Parce que nous sommes co-héritiers. C'est pour ça qu'il dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire également. Donc, nous avons bien ici la preuve que nous sommes co-héritiers des bénédictions spirituelles de notre Père, de Dieu. Troisièmement, nous sommes co-héritiers des biens matériels et célestes. La Bible dit dans Jean 1, parlant du Fils, il dit, demande-moi et je te donnerai l'extrémité de la terre pour héritage. Et la Bible nous dit que Dieu a fait le Fils unique et lui a donné en héritage toutes choses, la création et tout. Mais comme nous sommes devenus enfants, nous allons partager cet héritage. C'est pour ça que la Bible dit, les justes hériteront la terre. Donc nous allons hériter la terre. La terre, il dit, la terre m'appartient. Donc il va nous donner cette terre en héritage. Dans Proverbe 11, verset 31, il est écrit, voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Donc, étant sur la terre, nous recevons des bénédictions de Dieu. Dans Matthieu 5, verset 5, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Il n'y a pas une catégorie qu'on appelle débonnaires, c'est encore les enfants de Dieu. Tous les justes hériteront la terre. Éphésiens 1, 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ses saints. Nous avons un héritage céleste qui nous est réservé. Pierre en fait le dit, 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés pour la foi, pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Nous avons un héritage céleste. Donc nous résumons ici ce point en disant que nous avons droit à l'héritage matériel, terrestre, et à l'héritage céleste. Mais quels seront donc les critères de bataille de cet héritage? Premièrement, on a dit qu'on partageait l'héritage selon le nombre de personnes qu'on avait dans cette vie. Ici, l'analogie sera nos œuvres. Selon l'abondance de tes œuvres, tu auras ta part. Celui qui a eu 5 talents, qui les a multipliés, régnera sur 10 villes. Celui qui a eu moins, régnera sur moins de villes. Donc, en fonction de tes œuvres, de ton travail, c'est pour ça que la Bible dit, je rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc le principe est équitable. Maintenant, si tu peux travailler plus que Jésus-Christ, si tu veux faire plus que Jésus-Christ, tu auras plus. Parce que nous sommes co-héritiers. Je voulais rappeler un des principes de l'héritage, c'est que l'aîné a double part. Comme l'aîné a double part, nous avons vu que l'aîné a été démis, que Ruben a été déshérité, que Simeon et Lévi ont été violents, ils ont été déshérités. Que normalement c'est Judas qui devait hériter, mais 1 Chronique 5 nous dit que c'est Joseph qui avait droit au tout portion. C'est pour ça que ces deux enfants adoptés faisaient deux dans l'héritage des 12 tribus d'Israël. De cette même manière, Christ est le premier-né d'entre les frères. Donc étant notre aîné, il a droit à la double portion de l'héritage. Et c'est l'aîné qui dirige après le Père. C'est pour cela que c'est lui qui sera le roi et qui va nous diriger. Et toi, si tu as plus d'œuvres que Jésus-Christ, tu auras plus. Donc c'est démocratisé également. On a vu aussi la dernière fois que l'héritage aussi se partage par un don de grâce. Donc Dieu va donner à certaines personnes des choses juste par pure grâce, parce qu'il est libre de faire de ses bénédictions célestes ce qu'il veut. En fait, c'est ce qu'on découvre lorsqu'il dit aux apôtres, vous les 12, vous allez être assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais en nous aussi, on aurait pu juger, mais il a décidé de leur donner. Et donc, personne ne peut aller s'asseoir sur ce trône pour juger Israël. Troisièmement, il a dit, celui qui aspire à la charge d'évêque fait une bonne chose. Il s'attire un rang honorable s'il travaille bien. Donc là aussi, les évêques, les pasteurs qui travaillent bien auront un rang spécial. Ça aussi, c'est un don de grâce. Un don de grâce de Dieu. Très chers frères, voilà donc en résumé l'adoption des chrétiens. Nous retenons que Christ nous a engendrés, Dieu nous a adoptés. Comme Joseph a engendré Ephraim et Manassé, et Jacob les a adoptés. Deuxièmement, nous sommes donc enfants de Dieu par adoption, parce que Dieu, dans son plan, avait prévu que nous le soyons par adoption. Et nous avons vu donc que nous sommes élevés au rang de fils de Dieu. Et c'est par cette adoption que nous disons Abba, que nous disons Dieu, de Dieu notre Père. Nous avons droit donc à la bénédiction spirituelle. Et je vous dis, nous sommes déjà bénis spirituellement. Le Père nous a déjà bénis de toutes les bénédictions qui lui appartiennent, les bénédictions spirituelles, comme tous les justes de l'Ancien Testament, beaucoup de justes de l'Ancien Testament, ont béni leur fils. Et nous avons droit à la bénédiction matérielle. Donc il n'y a pas de gens qui vont prétendre vous bénir matériellement comme si vous n'en avez jamais eu. Nous avons d'abord la bénédiction de Dieu. Et ceux qui ont été bénis de Dieu, ces croyants qui ont été bénis par leur Père de la part de Dieu, ont obtenu tout ce que l'on a dit. Jacob a été béni de venir dans l'abondance et il est sorti dans l'abondance. Et sachez que notre abondance n'est pas forcément matérielle, mais d'abord spirituelle. Il dit vraiment amassons des richesses célestes. Paul dit il ne nous voit pas physiquement, quoique nous sommes riches, on peut même les enrichir. Vous n'avez pas dit qu'il faut être riche. Voilà, chers frères, donc la fin de notre thème sur l'adoption. Il y a un des grands chapitres du principe de la nouvelle naissance. Et nous verrons la prochaine fois dans le cœur de l'homme. On verra qu'est-ce qui change en l'homme quand il naît de nouveau. Et après, nous verrons le signe de vie. Qu'est-ce qui prouve à un enfant de Dieu qu'il est enfant de Dieu? Le signe, c'est quelque chose qui nous permet de remarquer, identifier ou affirmer. Donc, quel sera le signe qui va prouver que nous sommes réellement de Dieu? Merci et d'ici là, que Dieu vous bénisse.